Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou sur internet campuslille.com. Au sommaire de cette émission, nous vous proposons une balade dans un pays de légendes où les fantômes et les monstres attirent encore quelques curieux, mais plus encore les voyageurs qui recherchent aussi un subtil mélange entre une nature brute et sauvage, un pays où la nature est chez elle, l'Écosse, terre de brune, avec Lionel de Courtail.
Bonjour.
Bonjour Lionel.
Bonjour.
Ah bah voilà, tu as vu, on a mis le ce qu'il fallait bien avec. Bonjour, effectivement, tu vas nous raconter ton voyage. C'est plus qu'une balade, hein. C'est une bonne dizaine de jours en Écosse. Alors à l'Écosse, quand même, hein, quand on parle d'Écosse, balade en Écosse, c'est quand même un pays mythique.
Une grande balade, un très très joli pays, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment apprécié. Bon, une nature un peu à l'état brut, un peu sauvage, et une belle balade avec plein de beaux paysages.
Alors t'es parti avec une 1500 Goldwyn, 6 cylindres.
Oui.
Hein, donc c'est déjà la moto qui prend un peu de place sur la route, parce que bon, j'ai regardé les photos quand même là-bas, c'est assez étroit quand même.
Alors il y a effectivement parfois des routes où on peut, c'est single track, je crois qu'ils appellent ça, et puis avec des passing place. Voilà, on commence fort déjà.
Va falloir que tu te redises.
On commence fort déjà. Hein. Passing place, qui sont des évitements en fait, parce que effectivement, il y a pas mal d'endroits où on peut pas se croiser à deux. Alors déjà, je crois avec une moto habituelle, bon, avec une moto avec un gabarit un peu plus important comme la mienne, c'est donc voilà, donc c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux.
Donc il y a une procédure en fait. Il y a pas de panneau, mais on.
Il y a des panneaux parfois, c'est marqué passing place justement. Et puis alors effectivement, il y a un protocole, une procédure, tout est affaire de logique et de courtoisie.
Voilà, surtout, oui. Apparemment, ils sont très, très courtois, les Écossais.
Ça fonctionne très bien.
C'est apparemment autre chose qu'en France.
Non, quand même.
Pas de commentaire.
Il y a moins de monde aussi.
Il y a moins de monde, effectivement, ouais. Mais j'ai été quand même surpris de voir que c'est quand même très touristique. C'est quand même très touristique. Je pensais pas croiser quand même autant de voitures, de camping-cars et quelques motards, énormément.
C'est quand même un beau pays, c'est une belle balade quand même.
Super.
On peut même passer au moins 3 semaines peut-être.
Oui.
Tu n'as pas eu le temps de monter carrément là-bas dans l'Highland, tout en haut.
Les Highlands, c'est ce qu'on appelle, c'est un petit peu tout le côté nord-ouest de l'Écosse.
Cette fameuse faille.
Les hautes terres. Ouais, mais, les hautes terres. Bon voilà, donc j'étais dans les Highlands, mais c'est un territoire assez important. Je ne suis pas monté tout en haut à l'extrême nord. Je suis monté au nord-ouest, mais pas tout à fait à l'extrême nord. J'ai des très beaux paysages.
Très bien. Pour revenir à la moto, finalement, tu dis, c'est bien que j'avais cette moto parce qu'elle est bien équipée et bien, elle protège aussi le pilote parce que tu n'as pas eu forcément que du soleil.
Voilà. Alors, je m'y attendais un peu. Je savais très bien que, bon, l'Écosse, c'est quand même pas, c'est pas la Méditerranée. C'est pas la même chose. Donc, je m'attendais à avoir des températures un peu fraîchouillardes. Je m'attendais à avoir un peu de pluie, quelques averses, un peu de bruine. Bon, d'après les échos que j'ai pu partager avec d'autres personnes qui sont déjà allées en Écosse, je pense que j'étais particulièrement gâté. Sur une dizaine de jours, ça fait une quarantaine d'années que je fais de la moto, ça restera gravé dans la mémoire. Je crois que je ne m'étais pas souvent pris autant de flotte sur si peu de temps.
Tu t'es juré de mettre un essuie-glace sur ton pare-brise.
Alors, je sais pas, ouais, deux donc, même. Pour aller en Écosse, c'est pas un, c'est deux, je pense.
Effectivement, donc tu regardes à travers le pare-brise et effectivement, quand il pleut, c'est toujours assez perturbant et on voit pas, c'est pas la visibilité n'est pas terrible.
Voilà, surtout quand on prend des petites routes, on prend des petites grimpettes, donc on roule pas très vite et puis l'eau n'a pas le temps de s'évacuer. Donc, mais bon, c'est pas grave du tout. C'est plein de bons souvenirs.
Très bien, on a 90 minutes pour parler de ce fabuleux voyage. J'espère que tu m'as donné envie d'aller aussi l'année prochaine. Nous, on partira peut-être faire une balade là-bas en Écosse. Voilà, on va pour le sommaire, on continue le sommaire. On va parler sport avec Nicolas Poiret. Bonjour Nico.
Salut Mich.
Tu as regardé le Grand Prix du Japon.
J'ai regardé le Grand Prix du Japon ce matin.
C'était un peu l'Écosse.
Du matin. Exactement, c'était un temps écossais.
C'était l'Écosse.
C'était un Écossais, on est exactement ouais. Ça. En fait, ce Grand Prix a eu lieu sous la flotte d'un bout à l'autre, puisque Les essais ont été sous l'eau la course était une course d'anthologie, encore une fois un beau spectacle, mais entièrement sous des trompes de flotte. Et c'est impressionnant, mais effectivement au Japon on n'imagine pas trop, hein, mais oui, très très pluvieux.
Ça peut être c'est le printemps là-bas au Japon, il y a le changement de...
D'hémisphère, je sais pas, c'est l'hémisphère nord, non ? Je sais pas.
Enfin bref, donc une victoire de Vizoso
on va revenir là-dessus.
Ce qui est intéressant, c'est que ça remet
ça relance le
titre,
championnat
avec Marquez qui a fini deuxième.
Et puis alors, on avait beaucoup d'espoir parce que Zarco avait fait la pole hier, donc deuxième pole de la saison, c'est pas rien. Hein, c'est comme Pedrosa cette année, il a fait deux poles aussi, hein, c'est pas rien. Et donc, on avait beaucoup d'espoir, qui ont un petit peu déçu, on en parlera.
Mmh. Ouais, très bien. Bonjour Laurent.
Ouais.
Tout va bien, technique.
J'étais encore aux toilettes.
Tout va bien.
Eh bien, c'est parti pour le programme.
I don't promise you the
Ah, ça c'est pour te mettre dans l'ambiance.
Ah, excellent, excellent,
ça danse de l'autre côté.
Ah, ouais, excellent. Ah, bah, ouais,
c'est pas breton, Gilles. Ah, ouais, ouais. C'est pas breton, c'est écossais.
Excellent là. Voilà. Oui, la musique, la cornemuse, tout ça, c'est super sympa.
Est-ce que tu as eu l'occasion d'assister
non, pas spécialement.
À des fêtes populaires.
J'ai eu à un moment donné, j'ai eu un petit, il y avait deux personnes en kilt avec une cornemuse, mais c'était plus pour le folklore, c'était à Édimbourg. J'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure.
Voilà. Donc, il n'y a pas 36 solutions pour aller en Écosse. Soit on prend le bateau. Il y a une possibilité de prendre le bateau en Belgique, à Zeebrugge, je crois.
Oui,
et direction après, on arrive à Hull, c'est en dessous ou au-dessus d'Édimbourg. Mais le problème, le tarif est très, très, très cher.
Voilà. Alors, effectivement, déjà, comme je suis un très, très mauvais nageur, je me suis dit, bon.
T'as eu peur.
Voilà,
de toute façon, il a fallu prendre le bateau quand même.
Donc, il fallait prendre le bateau. La Goldu n'est pas encore amphibie, ça ne marche pas. Et donc je m'étais un petit peu renseigné parce que c'est vrai qu'initialement j'avais pas trop envie de traverser l'Angleterre. Alors c'est peut-être une idée reçue que j'ai, c'est que je me disais l'Angleterre c'est assez plat, c'est assez urbanisé, c'est pas forcément très joli. Bon voilà, donc je suis un peu revenu sur ma position, j'en parlerai aussi un peu après. Donc je m'étais un petit peu renseigné en disant je vais prendre comme tu le dis le bateau à Zeebrugge en Belgique, ou éventuellement à côté d'Amsterdam, je ne sais plus le nom, enfin c'est du côté d'Amsterdam, et puis ça permet d'arriver soit pour le moins au nord de Londres, pour le plus un peu plus haut aussi, alors pas en Écosse mais un peu plus au nord de l'Angleterre. Et puis effectivement, quand j'ai vu les prix, j'ai complètement déchanté, surtout qu'il fallait réserver. Je suis pas vraiment un adepte des trucs un peu trop ficelés. J'aime bien, et comme le disait Nicolas, on en parlait deux secondes hors antenne, la moto c'est un peu la liberté. Et j'aime bien aussi avoir un peu de liberté et me dire, je vais dormir où je dormirai.
C'est plutôt le moteur à l'arrache, quoi.
Un petit peu. Bon, voilà. Et puis là, j'ai vu les prix. Grosso modo, c'était. Donc, pour moi tout seul, avec ma petite moto, enfin ma grosse moto, c'était entre 500 et 1000 euros aller-retour. Ouais. Et j'ai dit. Moi, ça me paraissait vraiment un budget exorbitant. Et je voulais surtout pas mettre cette somme-là pour ça. Je me dis, 500 000 euros, je veux bien les dépenser pour partir, pour voyager, pour mettre du carburant, pour visiter ou autre. Mais voilà. Donc j'ai complètement changé mon fusil d'épaule entre guillemets, et puis j'ai pris le bateau à Dunkerque jusqu'à Douvres, qui m'a coûté je sais plus 60 euros à l'aller et puis 50 euros au retour, quelque chose comme ça, on va dire une centaine d'euros aller-retour, sans réservation. Donc je suis arrivé un jour au matin à Dunkerque, et puis j'ai attendu une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai pris le premier bateau venu, il n'y avait que deux motos dedans, il y avait des camions, des voitures, etc. Voilà. Donc traversée qui dure à peu près deux heures, je crois, Dunkerque Douvres. Et puis
Après là, il faut se payer toute la remontée.
La
remontée sur le nord, le grand nord en fait de l'Angleterre, et ensuite pour arriver donc presque à Édimbourg, enfin c'est même pas Édimbourg.
C'est plus haut, c'est un peu plus haut. Ouais. Voilà. Alors effectivement, le but premier, moi, c'était d'aller en Écosse, donc j'allais dire j'étais prêt à zapper un peu l'Angleterre. Et puis comme je dis, donc j'ai roulé de Douvres, j'ai pris un peu d'autoroute de quatre voies, ce qui n'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, mais en même temps, quand on se voit avancer, c'est quand même le mieux. Et puis, en plus, il y a pas mal de petites choses qui changent quand on arrive sur le territoire britannique. C'est que, d'une part, faut rouler à gauche. Bon, alors, ça j'avais jamais fait. C'était...
Ah, c'était une première.
Ah, c'était une première pour moi. J'ai roulé un petit peu partout en Europe, mais je n'étais jamais allé chez nos cousins anglais, donc j'aimerais rouler à gauche.
Alors, le premier rond-plein, ça fait tout drôle.
Voilà, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que... Alors, on s'y fait très vite, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, et puis on suit un peu le flow. C'est vrai que le premier rond-point, on a tendance à attendre les voitures qui arrivent d'un côté, puis elles arrivent de l'autre, et puis, c'est un peu... Il y a un petit côté jeu de piste au départ. Comme j'aime bien les rallyes touristiques, ça m'a bien plu, je dis, on s'habitue, tout va bien. Donc, j'ai dû faire au moins, 500 bornes, facile, donc sur des quatre voies, des autoroutes. Ils sont très 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 fréquentés, c'est très chargé. Bon, j'ai réussi à me débrouiller au niveau des indications. Bon, il y a ce qui s'appelle l'orbital, London Orbital, c'est l'espèce de grand périph là, tout autour. Donc ça a été. Je passais par Dartford Crossing. Si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire c'est sur en arrivant c'est à l'est de Londres pour au-dessus de la Tamise, donc un coup c'est en tunnel et un coup c'est en pont, je sais plus dans... On part c'est en tunnel et quand on revient c'est en pont ou l'inverse, je sais plus, enfin bref, peu importe. Et puis puis à un moment donné je me suis rendu quand je voyais toujours la direction Heathrow avec un avion l'aéroport d'Heathrow, et je me dis une fois, deux fois, trois fois, je me dis je suis peut-être pas bon là, donc je me suis arrêté, j'ai regardé ma carte parce que j'ai pas de GPS hein. Je suis pas un adepte du GPS.
Première fois en Angleterre, première fois rouler à gauche, pas de GPS.
Ouais.
Une bonne carte suffit, remarque.
Voilà, exactement. Donc je me suis dit, je dois pas être je m'en vais plus sur l'ouest, c'est peut-être pas ça. Donc je me suis arrêté, puis j'ai rattrapé après ma route et donc voilà. Donc j'ai fait et puis quand je suis arrivé au nord de l'Angleterre, j'ai trouvé qu'il y avait des coins et des paysages qui étaient pas vilains du tout, avec des petites routes étroites, avec des petits murets par endroits, avec des paysages alors montagneux, la montagne, la petite montagne hein, mais sympa comme tout, avec des petits villages avec des maisons un petit peu qui ont un charme, qui sont un peu typiques, et ça m'a bien plu. Donc je reviens un peu sur mon idée initiale que l'Angleterre c'est pas beau. Et je pense que l'Angleterre, il y a des beaux coins.
Il y a Gilles Tailleur qui est juste, qui fait des, qui lève, il est derrière la vitre, et qui lève. Et tu connais hein, Gilles, forcément, c'est un pro anglophile.
Voilà.
Effectivement, aussi en Angleterre, je pense qu'il y a aussi des beaux paysages aussi à visiter, enfin des endroits, des régions à visiter.
Tout à fait. J'ai pris à un moment donné du côté de Keswick, donc le parc de je ne sais plus quoi, il y a un parc naturel là, et des petites routes qui serpentent dans la montagne, dans la petite montagne, avec des petits murets sur les côtés. Un peu, je pense, on en parlait hors antenne, un peu, je pense, à l'image de certains paysages d'Irlande. Et j'étais très, très agréablement surpris. Donc, une belle petite balade au nord de l'Angleterre. Je me suis permis même j'ai passé une nuit en auberge de jeunesse. On ne sourit pas vu mon grand âge, merci. Voilà, c'est vrai que les auditeurs peuvent pas le voir.
Ça a dû paraître bizarre quand même, non, voir tous ces jeunes.
Les auberges de jeunesse, la miche, il n'y a pas d'âge.
Il n'y a pas d'âge, bon, d'accord.
C'est dans la tête que ça se passe.
Voilà.
D'accord, très bien.
Et donc. Donc c'était vraiment vraiment un et puis j'ai fait une petite balade là au nord d'Angleterre avant d'aller vraiment en Écosse, de franchir le.
Pour l'instant on n'est pas encore en Écosse hein. Il fallait bien expliquer un peu comment tu t'es rendu déjà là-bas. Il faut forcément prendre le bateau hein.
Voilà,
il n'y a pas 36 solutions de toute façon, soit on reprend Calais ou on prend Hull, enfin Zeebrugge, ou une autre solution encore à Amsterdam là, tu dis,
mais voilà,
je la connais pas trop celle-là
à côté d'Amsterdam. C'est je sais plus, ça s'appelle pas Amsterdam même, c'est Imjmenane ou je sais plus, je me souviens.
Tout va bien, t'as pas dû mettre le gilet de sauvetage?
Non.
Tout va bien.
Non, ça a été très
bien. On est presque arrivé en Écosse, on passe un morceau de musique et après on rentre, on passe à la frontière. Il y a une frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, non? Non?
Il y a une frontière un peu fictive.
On dit oui,
ouais,
il y a une frontière.
Ouais, bon.
On me dit oui, d'accord. Bon, ok, allez, on passe un morceau de musique et forcément on se retrouve après parce que tu nous racontes tout ce qui est des aventures. Fond musical pour l'occasion aussi, Lionel. Hein. Voilà. Donc on va présenter Gilles Détailleur qui vient d'arriver dans les studios. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour.
On va parler de l'affaire Chapleur. En fait, il y a eu un dénouement. On parlera ça tout à l'heure vers midi.
Hein.
Et puis notre ami aussi franco-grec, Yanis, bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, le sujet, on part en balade, on part en Écosse. Hein. Donc, on a traversé toute l'Angleterre. On arrive à j'ai la carte, hein, une espèce de frontière, mais qui est virtuelle, en fait.
Oui,
hein, il n'y a pas de poste de police. Voilà.
Avec ce qui,
mais
est-ce
qu'on sent qu'on rentre en Écosse?
Pas plus que ça.
Non.
Bon, il y a les ruines du mur d'Adria, là, qui était une espèce de frontière entre les deux. Alors, non, parce que, bon, on sent qu'on rentre en Écosse, pas plus que ça, puisque on est toujours obligé de payer en livres. Les mètres, ça se compte toujours en yards, et les kilomètres en miles. Mmh. Et si je parle français ou ch'ti, ils comprennent pas.
D'accord. Voilà. Tu parles anglais, au fait?
Oh là. Oh là là. Ça a été terrible, ça. Parce que je parle très, 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 très... Enfin, j'arrive à peu près à me faire comprendre, sauf quand la personne me répond...
Il faut dire que les Écossais, ils ne parlent pas très bien anglais. Hein.
Mais aussi.
Et moi, ce qu'on peut voir un peu sur les sites, c'est qu'ils roulent un peu les...
Il y a un accent terrible.
Ouais.
Oh, alors, c'est infernal.
Voilà. Donc, paysage très très vallonné, très montagneux, avec beaucoup d'eau. Alors moi, c'est aussi ce que je retiens. Alors, il y a celle qui tombe du ciel. On en a déjà un peu parlé, on en reparlera peut-être encore. Mais on comprend très vite, effectivement, vu tout ce qui tombe du ciel, on comprend très vite aussi pourquoi il y a beaucoup d'eau. Donc, il y a les lochs, le plus connu étant le loch Ness. Il y a les lochs, mais il y a aussi tous les torrents, les rivières, les cascades.
Tu m'as dit aussi plages de sable magnifiques.
Des plages superbes, des plages. Dire quand on les voit, on serait tenté de dire on est sous les tropiques, parce qu'il y a des plages de sable avec parfois la mer qui est bleu turquoise, qui est très jolie. Bon, sauf qu'effectivement, la température de l'air et de l'eau, c'est pas la même que sous les tropiques. Voilà. Mais c'est vrai que c'est super, super joli, plein d'eau. Et alors, on se prend de l'eau sur la tronche, effectivement. Mais l'avantage, c'est quand même d'avoir ces pays, puis ces paysages qui sont très, avec des couleurs très vertes, avec l'herbe, la tourbière, etc. Et puis, c'est vrai que quand on est un peu dans les nuages, alors c'est ce qui m'a un peu frustré le plus, parce que j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup de flotte sur les 8-10 jours où je suis allé là-bas. Des fois, c'est un peu frustrant parce que le paysage est un peu caché. Mais en même temps, les cascades, elles redoublent de puissance et d'intensité, et ça donne quand même des choses sympas.
Donc il faut partir équipé, forcément, on combine sur bottes, sur gants.
Alors j'ai la chance, tu l'as rappelé tout à l'heure, d'avoir fait ça sur une deux roues. J'appelle des fois ça mon camping-car à deux roues, parce que c'est vrai, bon, voilà, c'est une Goldwyn. Mais c'est vrai qu'on est vachement protégé. J'ai pu encore le tester.
Alors, je ne vais pas dire que je n'ai pas du tout été mouillé, mais je n'ai pas été mouillé à l'avenant de ce que j'ai eu sur la tête. J'ai pu tester que mes chaussures, elles ne prenaient pas la flotte. Déjà, c'est bien d'avoir les pieds au sec. Le reste a été à peu près aussi. Bon, après, c'est surtout au niveau des paysages. Puis après, c'est bon, la visibilité. Et puis, l'adhérence au sol, ça on le sait tous, hein, le commun des mortels qui a déjà monté sur un deux roues motorisé, même non autorisé, on sait très bien que dès que la chaussée est humide et dès qu'il pleut, on n'y voit pas grand-chose et puis ça glisse de partout.
Donc, tu te savais bien que j'allais te poser la question, tu te doutais certainement que tu...
Est-ce que j'ai mis un kilt aujourd'hui pour venir ?
T'as mis un kilt aujourd'hui, t'as pas mis de kilt, mais tu es allé au Loch Ness, parce qu'il y a cette fameuse, cette fable, je sais pas si c'est une fable ou c'est vrai ou pas vrai, on sait pas, est-ce qu'il existe vraiment ce monstre de Loch Ness ?
Je n'étais pas très loin, je ne suis pas passé au Loch Ness, je n'ai pas vu le monstre. Je suis désolé de te décevoir.
Ce fameux lac, il est le long de cette faille qu'on appelle.
Le Caledonian Canal.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça sépare. Donc c'est en fait, après ce canal, c'est cette faille, c'est les hautes terres, les Highlands.
Alors le Caledonian Canal, c'est visiblement ça permet de relier les deux.
L'océan Atlantique à la mer du Nord.
Ouais, voilà. Enfin, c'est les deux côtés maritimes de l'Écosse. Et donc, ça m'est même arrivé d'être bloqué sur la route parce qu'il y avait un pont tournant pour laisser passer un bateau. Voilà.
Donc tu pourras pas nous dire si vraiment la légende est vraie, si vraiment ce monstre existe ou pas.
Non, parce mais que, je pense façon, que même,
tu n'as même
si
pas
j'avais
été au Loch Ness.
Mais je pense que même si j'avais passé 6 mois observé avec des jumelles, je suis pas sûr que je l'aurais vu.
Mais ça fait marcher quand même. Ça fait marcher le tourisme. Bon allez, on passe un morceau de musique et on continue notre petit voyage là-bas, notre périple en Écosse. I got my spirit vision, mama, she calling me. Head on collision when her heart runs free. When I'm high, a lot of people don't know but to mess me around. I've seen every kind of evil, got to get on out this town. I walk on pins and needles until I trip and fall. Ride through the world and come back 10 foot tall. No time for you, mama. Diesel got my blood cranked up. Ain't no good till I'm gone. Don't wanna break y'all loving cup. 'Cause I'm king of the mountain, son of the road. I got what you want, but I ain't coming home. You're like forever lost in a storm. You should know me better and leave it alone. Darkest wounds of sorrow, they hang it neath the rise. Trading tomorrow for silver screen lies. Don't you wait for my leaving. Cry to see me come back home. I'm a dog, you're a chain. Got to let me roll this stone. 'Cause I'm king of the mountain, son of the road. I got what you want, but I ain't coming home. When our heart grown free, got so high, loaded people, don't nobody mess me around.
I've seen every kind of evil. Got to get on out this town. Cause I'm king of the mountain, son of the road. I got what you want, but I ain't coming home. Gone like forever, lost in a storm. You should know me better and leave it alone. Alone, alone, alone. Go on and leave it alone. Alone, alone. Go on and leave it alone. Alone, alone.
Ah, oh, Lionel, c'est pas beau ça, ça rappelle des souvenirs. Cet été là,
magnifique.
Tu t'es fait bronzer là-bas en Écosse.
Bronzer.
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas prendre de crème solaire.
Alors, il faut peut-être. Quoique, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes qui ont eu peut-être un peu plus de chance que moi, parfois quand même, il y a du soleil. Alors, pas prendre de crème solaire, mais alors je vous conseille de prendre un produit quand même et vous l'acheter là-bas sur place.
Hein? Oui.
Le produit anti-midge.
Ah oui, oui, c'est ça.
C'est quoi ça?
J'allais en venir. Midge, c'est quoi ça?
C'est une saloperie comme c'est pas possible. Je voyais que Gilles, il acquiesçait à côté de moi. Il peut conforter mes dires.
Le mot est faible.
À ce point-là, c'est des gros moustiques alors.
C'est pas des gros moustiques.
C'est quoi?
C'est justement, c'est tout petit. C'est comme une tête d'épingle. C'est tout petit, petit.
C'est une puce.
Ça t'arrive en. C'est, je sais pas, un moucheron, un moustique, je sais pas comment c'est une midge. Et ça t'arrive en nuage sur la tronche, mais en nuage. C'est une infection. Donc ça veut dire que déjà, quand tu sais qu'il y a une opportunité de midge, outre le fait qu'il soit qu'il fasse un peu frais et un peu humide, donc déjà le short, le t-shirt, bon. Tu le mets pas trop, mais alors quand tu sais qu'il y a les mythes, tu le mets encore moins.
Bah, tu les rencontres où ces bestioles?
Alors tu les rencontres notamment dans les Highlands, quoi, en Écosse. Tu peux en rencontrer parce que j'en ai rencontré un tout petit peu au nord de l'Angleterre. Dans l'Angleterre, il y en avait un petit peu aussi. Parce que j'ai eu l'occasion de passer à un moment donné de boire une petite pinte avec un Anglais qui parlait pas trop mal français. Heureusement pour moi, c'est grâce à ça qu'on a réussi à converser. Sinon j'étais mal. Et à un moment donné, effectivement, il y avait ces petites bestioles qui étaient là. Et puis je me dis, on dirait des midges. Il me dit, ce sont des midges. Il y en a aussi un peu au nord d'Angleterre. Moins quand même. Mais voilà. Alors les midges, quand il y a du vent ou du soleil, on les voit pas trop. Sinon, on peut les voir et assez fréquemment, assez régulièrement. Il suffit de rester immobile. Pas longtemps, hein. 2 ou 3 secondes, t'es à côté de ta moto, le temps que tu prennes pour mettre ton casque, ben ça y est, t'es déjà envahi. Ça rentre partout, ça s'infiltre, dans les vêtements, dans le cou,
machin. Ça pique.
Et ça te bouffe le sang.
Ah
et,
ouais
non, c'est
ah
sérieux. Ouais, c'est ça te, non, mais ça bouffe le sang. Alors, ça bouffe le sang des animaux, mais ça te bouffe le sang. Et après, ça t'occasionne des démangeaisons.
Ah ouais,
D'accord. C'est vraiment. Je pense que Gilles, visiblement, il pourra en toucher
donc
un petit peu.
Il faut, pour se protéger, il faut mettre une crème spéciale.
Alors, c'est
ou
pas vraiment une crème, c'est plus. Enfin, c'est un produit que tu trouves là-bas aussi facilement, hein, à 7-8 euros, la petite bonbonne. Je pense qu'il est plus judicieux de l'acheter là-bas qu'acheter quelque chose en France, parce que dans les pharmacies en France, ils vont mettre des trucs, mais qui vont peut-être pas forcément correspondre. Et puis aussi, des fois, quand tu te balades, mon fils qui était là-bas pendant un mois et demi, et que je suis allé voir, il m'a prêté aussi ce qu'ils appellent une midginette. C'est une espèce de voile de veuve que tu mets sur la tronche. Alors, t'es mignon comme tout avec ça. Et en plus, pour respirer, pour prendre des photos, c'est top de chez top. Et pour voir le paysage aussi.
J'ai compris.
Donc, ça, c'est quand même.
Midinette.
Hein?
J'ai compris une midinette. Il m'a prêté une midinette.
Non, une midinette.
T'as l'impression d'être à Guantanamo, quoi.
Bien.
Alors, sous le casque. Alors, tu le laisses sous le casque, t'enfiles le casque. Avec la midginette
Non, parce que quand tu roules, tu mets pas la midginette, sinon tu vois plus rien déjà. Et en plus, les midges vont pas t'attaquer quand tu roules. C'est surtout quand t'es immobile. Gilles, les midginettes.
Voilà.
Alors, non, moi je connais pas ça, mais je dois dire que pour rouler ça doit être sympa.
Ah ouais.
Hein, avec la barbe et les moustaches ça doit être bien.
Ou mieux éviter. Il y a aussi ces fameuses vaches à poil. J'ai vu ça sur les photos.
Oui.
À poil.
Ouais.
Les moutons, les vaches.
Oui.
Alors, sur la route, ça traverse un peu n'importe où.
Voilà. Alors surtout les moutons. Alors les moutons, il y en a vraiment. Si on veut compter les moutons, c'est même pas la peine d'y penser. Vaut mieux compter les Écossais, ils sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreux, parce que il y a quand même un certain nombre d'endroits où c'est très peu habité. On fait parfois des kilomètres, on rencontre que quelques maisons. Par contre, les moutons, il y en a effectivement des milliers, des dizaines de milliers.
Il y a plus de moutons que d'habitants, alors peut-être en Écosse.
Oh, il n'y a pas photo là-dessus. Et effectivement, il faut faire attention parce que on trouve régulièrement des moutons sur la route. Des vaches, j'en ai vu une fois sur la route, enfin sur le bord de la route. Des grosses vaches, qui sont, moi je trouve très très jolies parce que des longs poils, avec des grandes cornes.
C'est pas de la vache qu'on a l'habitude de voir ici.
Non, pas du
ici,
tout.
Hein.
Pas du tout.
Figurez-vous qu'on en voit dans le Nord, hein, parce qu'on s'en sert.
J'ai jamais vu ça dans le Nord.
Si, des Highlands, il y en a, on s'en sert dans les parcs naturels régionaux, ou dans les réserves,
pour monter.
Mais là, quelques kilomètres de ligne, il y en a.
D'accord.
Sur la côte.
Mais quand tu roules sur la petite route ici dans la région, tu vois pas de vache.
Mais j'en ai vu la semaine dernière. Au platier d'oie.
Voilà. Alors, et donc faut faire attention, il faut toujours être vigilant. Donc les voitures se croiser, donc il y a toujours une espèce de courtoisie. Chacun s'arrête pour se croiser, les vaches, les moutons, les petites routes.
Voilà, une logique.
La pluie.
Oui, voilà. J'y ai trouvé un petit côté, enfin aventure entre guillemets, tout est relatif, mais c'est vrai que merci Laurent. Il y a plein de choses qui changent. Rouler à gauche, comme je l'ai dit, payer en livres, compter en miles. Parce que ça, attention, quand on voit, quand il y a un panneau limité à 50, on n'est pas limité à 50. Voilà. En fait, c'est plutôt 80.
Et aussi, pour la réserve.
Quand on voit un panneau, pareil. Hein, quand on voit un panneau, on se dit tiens, 10 km, oh, bah ça va, je suis arrivé. Un peu plus. C'est plutôt 16.
Voilà. tiens, on parle de mouton. Tu as mangé, tu as goûté. Moi, j'ai jamais mangé ce truc-là. Comment ça s'appelle?
Le haggis.
Tu parles que c'est pas terrible.
Haggis.
Il y a Gilles qui apparemment.
J'avais l'habitude de le prononcer haggis. Et on m'a dit non, c'est haggis.
Haggis.
Apparemment.
Ouais.
La panche de brebis farcie.
Alors,
j'en ai mangé, j'en ai goûté. J'ai trouvé ça plutôt bon. Un peu relevé. Ça fait penser un peu à du boudin.
Ah ouais.
Enfin, je sais pas. Qui en a déjà mangé ici autour de...
J'en ai mangé.
Et alors, ça te fait penser un peu à ça?
Miyashi, c'est bon, ouais, c'est très bon.
C'est ça, hachi, boudin, enfin un peu dans... Voilà, c'est pas mauvais du tout. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé ça...
En gros, tu es resté 10 jours, donc tu t'as mangé... Tu mangeais où? Des restos ou comme ça, sur le bord de la route?
Alors, j'ai mangé une fois un fish and chips.
Oui, c'est pas spécialement écossais.
Voilà, c'est...
T'as pas mangé
On oublie. Le haggis, c'est pas mauvais du tout. Ouais. Souvent ils font ça avec une purée, de navets, pommes de terre, des trucs comme ça. C'est pas mauvais du tout. Alors j'ai remarqué quand même qu'au niveau de la nourriture, c'est quand même les champions de l'emballage plastique. Quand tu vas dans les... Je sais pas si Gilles, il a eu ça il y a une dizaine d'années aussi, c'est que par exemple, les carottes, tu peux même les trouver en lamelles dans des sachets plastiques. Et mon fils, qui est resté là un mois et demi, il m'a dit, les fruits et les légumes ne pourrissent pas bien vite, voire pas du tout. Donc de là à penser qu'ils soient vraiment traités, tellement traités qu'ils en sont maltraités, je ne sais pas. Voilà, alors c'est ça, les légumes, les fruits un peu sous vide, le fromage, du cheddar, ou encore du cheddar, ou aussi du cheddar.
Ah bah ça va, il n'y a pas de problème pour le choix, quoi. Voilà, très bien. Bon, écoutez, on va passer un morceau de musique, et après on va terminer, parce que tu es allé sur cette fameuse île de Skye. C'est pareil, c'est un endroit magique où forcément, où il faut aller.
D'une part, oui. Mais j'ai trouvé d'autres endroits aussi magiques, voire même peut-être encore plus magiques.
Et la petite côte aussi, il paraît que la petite côte là, qui est juste sur le côté là, de l'île de Skye, où est la route la plus belle du monde. On m'a dit ça.
Je sais pas.
Non, tu sais pas. T'as pas fait toutes les routes du monde, donc tu peux pas savoir.
Non, voilà.
Voilà. Allez, on se retrouve après.
Fair foy your honest sonsy face. Great chieftain of the puddin race. A bend them all, ye tack your place. Pinch, tripe, or firm. Weel are your word your grace as lang as my.
Nature et chez elle, c'est bien l'Écosse, Lionel.
Tout à fait.
Hein, voilà. Donc on continue un peu ton trajet là. Hein. T'es passé donc. On va parler de cette île de Skye qui est apparemment très belle. J'étais voir sur des sites.
Alors.
Tous les voyageurs m'ont dit. Enfin, il s'est écrit que vraiment c'est fantastique. C'est bien une chose à voir. Aller voir cette île.
Alors effectivement, ça c'est ça fait aussi partie de la carte postale écossaise. C'est-à-dire c'est voilà l'île de Skye. C'est des incontournables. Alors j'ai énormément apprécié. Mais il y a des endroits autres que peut-être j'ai un peu plus apprécié. Alors j'ai énormément apprécié l'île de Skye. C'est quand même très touristique. J'y suis allé ce jour-là. J'ai pris des seaux d'eau, douche écossaise. Je sais ce que c'est. Je me suis arrêté 2-3 fois pour laisser passer parce que c'était vraiment trop. À un moment donné, c'était ma sécurité qui était menacée parce que je voyais plus rien. Ça glissait trop. C'était vraiment des trombes d'eau. Donc je me suis arrêté 2-3 fois sur les journées, mis à l'abri le temps que ça se passe. Et après je repartais. Et après c'était un peu plus calme. Voire il pleuvait plus, puis des fois ça reprenait à un moment donné quoi. Et donc l'île de Skye, c'est alors très joli paysage, qui a priori semblent très sauvages, mais qui sont quand même pas mal envahis par les touristes. Et puis, il y a les incontournables comme Old Man Store. Voilà, qui est une roche particulière, voilà, qui fait penser à un vieil homme sur une montagne, etc. Une espèce de sculpture naturelle. Et puis il y a Kilt Rock. C'est au bord de la mer, c'est des falaises, et il y a un endroit effectivement, la mer a joué, enfin les éléments ont fait que ça peut faire penser à une roche en forme de kilt. Voilà, avec une cascade avant. Donc, c'est des coins très jolis. Je suis resté un petit peu prudent parce que... Alors, c'est vrai que c'est incontournable. Je pense que si on va en Écosse, il faut le faire. Sauf que c'est quand même assez touristique. Puis, on sent quand même que, voilà, il y a des endroits comme Kilt Rock. Il y a du grillage, c'est balisé. Il y a des panneaux, il y a des machins. Il y a des bus avec des Japonais. Enfin, voilà, c'est...
C'est victime de son succès.
J'ai rien contre, hein, mais bon... Voilà, on sent que... Et pourtant, le jour où je l'ai fait, il faisait un temps vraiment assez épouvantable et il y avait quand même du monde.
Il y avait du monde.
Y compris des randonneurs à pied ou à vélo. Bon. Et je me suis dit, déjà, moi, à moto, c'est galère avec le temps qu'il fait. Bah, je me suis dit, bah, pff, ah, y en a qui font bien mieux que
moi. Apparemment, le mois d'août, c'est pas vraiment, d'après Gilles, c'est pas vraiment le meilleur moment pour aller visiter, pour partir en balade là-bas, en Écosse. Ce serait plutôt début juin.
Début juin, les 15 premiers jours.
Parce, oui, pourquoi c'est... Parce que le temps est peut-être plus favorable et il y a moins de touristes.
Ah, ça, c'est certain, voilà. Oui, tout à fait.
Donc, oui, en fait, je ne m'attendais pas forcément à voir autant à ce que ce soit aussi touristique que ça. Sérieusement, je me disais, bon, on connaît tous un peu les bords de Méditerranée en plein été qu'on fouille, enfin, pour ma part, à grandes enjambées. Bon, je me disais, l'Écosse, vu la fraîcheur un peu ambiante et la météo, je me dis, ça ne va pas être non plus, mais il y a pas mal de monde. Et donc, je suis allé me balader aussi, pas très loin de l'île de Skye. Le nom, c'est Apple Cross, mais il n'y a pas que ce petit village là, mais ça c'est il y a ce petit village et puis d'autres balades à faire. Et là, franchement, j'ai des routes touristiques magnifiques, somptueuses, des paysages. À la limite, je serais tenté de dire, faites l'île de Skye parce que c'est un incontournable, mais allez surtout encore plus au nord et
ça, c'est nord-ouest,
en restant à l'ouest, hein, toujours, à l'ouest, hein, ouais. Parce que bon, le nord-est, visiblement, de ce que j'ai pu voir et entendre, et j'ai des amis qui sont allés il y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, ils m'ont dit bon, voilà, l'ouest c'est super, l'est ça l'est quand même moins. Au niveau des paysages, j'entends bien. Hein. Et donc, Apple Cross, ce coin-là, c'est vraiment, il faut passer par là. Il y a des petites routes de montagne abruptes, il y a des paysages à couper le souffle, c'est vraiment à faire. Quoi. Il faut vraiment aller en Écosse. Voilà, ça vaut la peine, ça vaut le coup. Alors, voilà, vas-y.
Non, mais Yannis qui posait une question. Alors, les Écossaises ?
Non, c'est pas les Écossaises. Je demandais d'abord comment sont perçus les motards par les Écossais, les touristes à moto. D'abord, est-ce que tu en as rencontré beaucoup, des voyageurs à moto? Comment ils sont perçus, accueillis? Et puis, ouais, bah, voilà, c'est mes questions. Est-ce qu'il y a des infrastructures spécifiques pour les motards en balade, en voyage en Écosse?
Alors, les motards, j'en ai pas vu énormément. J'en ai croisé quelques-uns, j'en ai pas vu énormément. Alors, il y a une chose qui m'a un petit peu interpellé, et puis en même temps, alors je sais pas si c'est une logique ou pas, c'est qu'effectivement, bon, en France, il y a le signe du motard qui se fait quand même, qui perdure plutôt bien. Là, c'est vrai qu'en Angleterre, en Écosse, je l'ai pas trop senti, voire même pas du tout. En même temps, je me suis dit, il y a déjà un problème technique. C'est-à-dire que quand on a un moto, forcément, nous, on accélère avec la main droite. On est d'accord, vous me suivez, les auditeurs. Quand on est en... Donc, la main gauche est libre pour faire signe. Sauf que là, quand on est en Angleterre ou en Écosse, ben normalement, on est censé faire signe avec la main droite. Sauf que si tu lâches l'accélérateur, ouais, t'es pas habitué à ça. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, peut-être que c'est aussi un des obstacles qu'il fait. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, le signe... Enfin, moi, je ne l'ai pas senti. Ouais. Je ne sais pas si Gilles... bon, voilà. Alors, l'accueil des Écossais, moi, je l'ai plutôt bien perçu. Je trouve qu'on est très bien accueillis, y compris au nord de l'Angleterre et en Écosse. Vraiment, le peu que j'ai pu côtoyer les Écossais, j'ai été vraiment super, super bien accueilli. Alors, est-ce qu'il y a des choses spécifiques pour les motos? J'ai pas eu trop l'occasion de tester. J'ai juste testé un truc à Édimbourg. J'ai fait une petite escale d'une petite demi-journée à Édimbourg, qui est une ville superbe, très vivante et très jolie à voir, des vieilles pierres, etc. Et mon fils m'avait dit, t'embarques surtout pas dans le centre d'Édimbourg en moto, reste sur le périph, il y a des parkings gratos, et après tu prends un bus un peu payant, quelques livres, machin, etc. Et puis j'ai dit, oh, j'ai pas envie de prendre le bus, j'ai pas envie de machin, j'ai dit, allez, je vais faire mon têtu, je vais aller directement dans le centre d'Édimbourg en moto. Sans GPS, je le rappelle. Ah, franchement, j'ai fait fort sur ce coup-là. Je reconnais que... Donc, j'ai réussi. Et pour répondre impartialement à ta question, à un moment donné, je me suis dit, je sais pas du tout où je vais me stationner parce qu'il y a des grosses bordures, des gros machins, etc. Et j'ai vu dans le centre d'Édimbourg un tout petit parking où il y avait 7-8 bécanes. Et c'était un parking gratuit pour bécanes. Et j'ai trouvé ça sympa parce que j'ai pu me stationner, j'ai pu aller me faire la balade dans Édimbourg. Donc, en tout cas, à Édimbourg, j'ai trouvé dans le centre même, dans le vieux centre historique, un petit parking moto gratuit. Après, pour le reste, bon, mais en même temps, les paysages que j'ai vus, c'est quand même très sauvage. Il y a quand même pas, à mon avis, comme dit Gilles, si on y va au mois de juin, je dis pas qu'on est tout seul, mais on doit pas être bien loin, quoi.
T'as pas vu d'hébergement hôtelier pour les motards avec des équipements.
Pas particulièrement.
Parce que je sais que ça existe en Écosse. Il y en a beaucoup en Allemagne, par exemple. Ouais. Il y en a pas mal en Suisse, en Autriche, mais là en Écosse, t'as pas remarqué.
Non, ce qui veut pas dire qu'il y en a pas. Hein, mais j'ai pas.
Bon, très bien, Lionel, on va conclure un peu. Enfin, en fait, on va conclure cette balade en Écosse. Est-ce que tu penses retourner là-bas ou
non? Oh, pourquoi pas? Oui, non, j'aimerais peut-être encore aller y retourner, peut-être aller plus sur Applecross dans ces coins-là parce que j'ai vraiment bien aimé. Puis je pense que je suis resté un peu sur ma faim. Peut-être monter un petit peu plus au nord-ouest là, parce que effectivement, mon fils m'a montré aussi des photos avec des jolies plages de sable fin avec des coins très sauvages, donc pourquoi pas dans l'immédiat, parce que j'ai peut-être envie d'avoir d'autres horizons aussi, mais
oui. Eh bien, bah écoute, tu reviendras à la radio nous parler un peu de tes aventures, hein.
Je suis pas tout seul.
C'est captivant quand tu racontes
c'est vrai
ta balade. Voilà, bon. Parce qu'on va parler de sport. Il y avait le Grand Prix du Japon aujourd'hui. Bah, c'était hier, il y avait le décalage horaire. Hein.
C'était ce matin. À 7h,
et donc, c'était à 7h, il fallait se lever tôt. Hein.
Oui.
Et puis, il fallait avoir une télé qui marche.
Ah, la miche, j'ai rien vu, cette télé.
Voilà. Donc, je vais demander à Nico de nous raconter un peu ce Grand Prix. J'ai vu quelques petites images, apparemment, c'était un peu l'Écosse, hein. Piste
le temps,
complètement détrempée.
Exactement. Voilà. Oui, donc en fait, hier, il y avait les essais. Les essais étaient également sous la pluie. Et puis, Zarco, dans la dernière seconde, a décroché la pole.
Alors, moi, vous posez la question, est-ce que Gilles, tu connais Johann Zarco? Est-ce que tu connais?
Je m'excuse, non, je suis...
Je suis du
siècle dernier. Hein,
non, non, mais donc, tu sais que c'est un pilote qui est la catégorie Rennes, enfin les motos GP, et qui apparemment est très performant cette année. Hein.
Ouais, tu connais Christian Sarron?
Un peu.
Le dernier,
un peu. Ouais. Oui,
ben voilà,
oui. Moi, je peux vous parler de Finlay, par contre.
Finlay.
Tout à fait.
Voilà, écoute, là, c'est
une autre époque. Hein.
C'est une autre époque. Mais il y a toujours des pilotes, et ils sont. Et voilà, Zarco, c'est l'espoir français, et il est en MotoGP. Et il avait décroché la pole, donc on avait plein d'espoir. Hein. Et puis, au championnat du monde, il est quand même pas mal. Il est 6e du championnat du monde, Zarco, donc c'est pas rien. C'est rare qu'on ait un français en catégorie reine comme ça. Et puis, au niveau du championnat, c'est très très serré cette année. Et il y avait Marquez, Dovizioso et Vinales qui sont dans un mouchoir de poche et qui peuvent tous encore prétendre.
Il y a 11 points, parce que c'est Dovizioso qui a passé la ligne arrivée en premier, hein, suivi de Marquez. C'est 25 points et 20 points pour le premier et le deuxième. Et, voilà. Et donc, il y a un écart de 11 points.
Voilà, à la fin, oui. Donc, il y a eu une belle bagarre entre Dovizioso et Marquez. La piste était trempée. Dovizioso, lui, il partait de la 9e place avec les essais. Et tandis que Marc Marquez, lui, était en première ligne. Donc, c'était pas évident pour Dovizioso de pouvoir revenir. Et c'est quand même lui qui a gagné la course, effectivement. Hein. Et Petrucci s'est bien comporté. Il avait pris des pneus extra soft. Alors, il a mené longtemps la course. Et puis, à une dizaine de tours de l'arrivée, il a commencé à avoir un petit peu de soucis, mais il a réussi à se maintenir troisième. Et il avait des pneus les plus tendres.
Et notre Français, alors, qui avait fait la pole, qui est parti carrément en première ligne.
Zarco, il est au premier virage, il était deuxième. Et puis, il a décroché progressivement. Et puis, il s'est retrouvé longtemps quatrième. Et puis, il n'a pas réussi à concrétiser. Il a fait un dépassement très agressif sur Lorenzo. Je pense que Lorenzo, il va s'en souvenir. Il n'a pas trop aimé. D'ailleurs, à la fin, il l'a redoublé, Lorenzo, de rage. Et il finit huitième, dépassé dans les derniers tours par Yannon, Rins, Lorenzo et même Alex Espargaro sur l'Aprilia. Mais il est quand même première Yamaha, parce que Rossi est tombé, et Vinales, le deuxième officiel Yamaha, était juste derrière lui. Donc, Loris Bass s'est pas mal comporté non plus, il a fini dixième. Et puis le coéquipier de Zarco, Jonas Folger, il est arrivé au Japon et aussitôt il est retourné en Allemagne pour faire des examens parce qu'il ne se sentait pas bien. Il a apparemment chopé un truc. Et donc il avait été remplacé par le japonais Kota Nozan qui a chuté. Et donc Dovi et Marquez là, sont à 11 points d'écart, comme tu disais, avec 5 victoires chacun cette saison.
Il reste 3 Grands Prix.
Oui, voilà.
La finale donc à Valence. C'est.
Oui, la finale, ça sera Valence en Espagne. Il y a d'abord l'Australie et la Malaisie.
Ouais.
Et puis, à l'arrivée, il y avait quand même dans le parc fermé, on sentait que c'était des rescapés des conditions atmosphériques délirantes. Et les trois pilotes qui étaient à l'arrivée sur le podium sont tombés dans les bras de l'un de l'autre en se félicitant et en se congratulant.
Étonné d'être encore.
en disant quand même qu'est-ce qu'on a fait. C'est une bagarre pareille sous des trompes de flotte et on est toujours sur nos roues. Ils étaient tous bien contents et avec le sourire. Et on aurait pu dire bah tiens, Marquez, il était devant, il aurait pu faire un petit peu la gueule de se faire coiffer au poteau. Ben non, ils étaient tous sourires. Et Petrucci était très très content d'être sur le podium également. Donc c'était une belle course. Donc tu veux que je dise un petit mot
on peut peut-être passer un morceau de musique.
Oui, on passe un morceau de musique.
Après on parlera de Moto 2.
Moto 2, Moto 3 et quelques histoires sur les transferts.
Les transferts aussi.
Voilà. Ouais.
Nicolas, si Marquez a terminé deuxième en moto GP, le frangin, lui, a terminé premier en moto 2.
Exactement. Exactement. Il y a un deuxième Marquez qui est en moto 2. Et c'est effectivement lui qui a gagné la course. Alors, c'était une course un petit peu spéciale parce que il y a eu, durant le warm-up moto 3, il y a eu des grosses chutes et la piste était pleine d'huile. Donc, ils ont passé beaucoup de temps à tout nettoyer. C'est vachement dur de nettoyer de l'huile sous la flotte. Il y a le produit absorbant, il est absorbé par la flotte, et pop, et l'huile, elle reste là, et elle surnage. Donc, ils ont passé énormément de temps, et du coup, ils ont raccourci les courses Moto 2 et Moto 3 pour ne pas impacter le MotoGP, et rester dans les temps pour la télé, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, la course Moto 2, elle a été raccourcie à 15 tours. Normalement, elle en fait 20. Et donc, du coup, il y avait en pole position, il y avait Nagakami, le japonais, donc, qui était sur son territoire. Lui, c'était son Grand Prix national. Et d'ailleurs, il sera l'an prochain avec Crutchlow. Il monte en MotoGP. Et il est parti en tête. Mais Alex Marquez, il a signé sa troisième victoire de la saison. Il a été plus rapide dès le départ. Et puis le deuxième, c'est Xavier Vierge. Alors lui, on le connaît pas trop, mais il roule sur une moto Tech 3, la Mistral. Et il était meilleur rookie l'an dernier en moto 2, meilleur arrivant en moto 2 l'an dernier. Donc et puis le troisième, c'est Chiarine. Alors c'est un Malaisien et lui, il est sous la pluie, il est toujours là.
Ah oui, oui.
Il fait pas grand chose le reste de l'année, mais à chaque fois qu'il pleut, il est devant.
Faudrait faire que des grands prix en Écosse.
Ou en Malaisie.
Voilà. Et donc pour le titre, ben c'est toujours Franco Morbidelli qui est largement en tête.
Il y a 24 points entre Thomas Vuitti et qui est deuxième au championnat du monde. Hein, et
voilà.
Il y a 24 points d'écart. Il peut encore se passer de plein de choses, hein, parce qu'il reste trois grands prix, on répète. Hein.
Oui, Morbidelli est arrivé 8e et Lutti 11e. Donc en fait, il conforte sa position. Et puis notre Français Fabio Quartararo, là, il est 19e, mais il est hors des points. Et en Moto 3, c'était encore pire parce qu'ils ont raccourci la course, mais encore pire. C'était quasiment une demi-course parce que ils l'ont raccourci à 13 tours. Normalement, il y en a 20, donc c'était vraiment un sprint. Et on attendait Joan Mir, lui, il a 80 points d'avance et on se disait il va déjà titrer au Japon. C'est un Espagnol qui a tout raflé cette année en Moto 3. Vraiment, il est au-dessus du lot. Alors, il a 80 points d'avance, on se disait, c'est bon, il va pouvoir être titré dès le Japon. Mais il a eu une pénalité le week-end dernier, enfin, le Grand Prix précédent en Aragon. Et donc, il était rétrogradé sur la grille de départ. Donc, en fait, de la 14e à la 20e place, il était rétrogradé. Et donc, ça n'a pas fonctionné, hein, c'était raté pour lui. L'épreuve Moto 3, donc, c'était un sprint et c'est Fenati. Le principal rival de Joan Mir.
C'est juste, au championnat du monde, c'est lui qui est juste derrière. Hein,
oui. Enfin, il y a encore 50 points.
Il y a 55 points d'écart entre les deux. Hein.
Et il reste que
4. À moins qu'il chute et qu'il se casse. Voilà. Parce qu'il se casse beaucoup les tibias en ce moment, les pilotes.
Il a fait ce qu'il a fait, mais bon, voilà. Donc, mais il a quand même
fini. Mais il y a Lionel. Si, il y a Valentino Rossi qui s'est double fracture, donc
tibia
péroné. Il y a aussi, en faisant du trial, comment il s'appelle, le pilote là. Qui s'est aussi fracturé le tibia.
Ouais. Et donc, il y a Cefenati qui a gagné avec 2 tours, avec 4 secondes d'avance et demi, donc vraiment très en avance, alors que c'était une course très 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 raccourcie. Et puis, le deuxième, c'est Nicolo Antonelli, et un jeune pilote italien, Bezzecchi, qui est en fait, il roule sur un team, avec un team français, le team d'Alain Bronec. C'était donc son premier podium. Et notre Jules Danilo national, ben, il finit juste derrière Joan Mir, 18e encore une fois, hors des points. Ouais.
Et on va le voir en Moto 2 l'année prochaine.
Alors oui. Alors justement, on passe sur les transferts. Donc effectivement, Jules Danilo, il sera le seul pilote engagé. C'était le seul pilote engagé en Moto 3 cette année. Et il va monter en Moto 2 sur une Calex dans l'équipe du frère le cousin de Vinales, Isaac Vinales. Hein. Et puis Fabio Quartararo, lui, il change d'équipe également. Il va rouler sur une speed-up l'an prochain. Et puis en Moto 2 toujours, bien, il y a Sam Love qui a été remercié par Aprilia en MotoGP, qui va retourner en Moto 2. Donc voilà. Et autrement, au niveau des transferts MotoGP, ben, on a tous en mémoire Loris Baz qui a un petit peu été remercié là, alors que il a fait quand même des belles courses. Il va être remplacé par le Belge Xavier Siméon. Xavier Siméon, ben, c'est un pilote qui n'est que 21e au championnat Moto2 cette année. D'ailleurs, il est tombé au Japon. Et après cette saison de Moto2, il est que 21e. Seulement, il rapporte 700 000 euros au team.
Allez, donc il y a une nouvelle façon de voir maintenant. Même si t'es pas un bon pilote, il te ramène beaucoup d'argent au team.
Le MotoGP, disons
ça va devenir bizarre parce que Marquez, il va mettre un tour à tous ces gens-là. Hein.
Bah exactement. Donc en fait, si le MotoGP, au lieu d'être le championnat des meilleurs pilotes du monde, c'est le championnat des pilotes qui rapporte le plus d'argent.
Le plus d'argent, oui.
C'est plus du jeu.
C'est plus du jeu.
C'est vrai que là, on a un petit peu ce matre-là. En plus, notre Loris Baz, il se fait avoir.
Je te propose l'année prochaine, le mois prochain, de refaire après le dernier Grand Prix là, à Valence en Espagne, de faire un débriefing de cette saison du championnat du monde 2017.
Entendu, bah oui.
On va mettre ça au point.
Voilà.
Avec tous ces problèmes d'argent, là, c'est assez curieux quand même.
L'argent a toujours été dans les courses, c'est vrai que ça coûte de plus en plus cher, mais bon, là c'est un petit peu difficile, quoi. Allez.
ça, Gilles, c'est du gros mono.
Gros mono,
non ?
Tout à fait. Ah bah oui, c'est évident.
Bon voilà, alors après l'Écosse, après le Japon, bah, on revient en France. On va revenir un peu sur cette affaire Chapleur là. Apparemment, la collection Chapleur est enfin sauvée dans des conditions plus que raisonnables. Il faut revenir un petit peu sur cette histoire, Gilles.
Voilà, tout à fait. Donc, au mois de juillet, le 4 pour être précis, il y a une validation qui a été faite par le conseil municipal d'Amnéville et la collection a été mise en vente. Alors, à qui la vendre ? Alors, il y avait eu une première action au départ. C'était donc un gestionnaire de biens de la région de Metz qui devait acquérir la collection. Et ça, je dois dire que par le biais de notre action et de la création de l'association, ça a été stoppé. Donc, ici, il y a une deuxième action de vente qui a été faite avec trois propositions, celle d'un collectionneur de la Mayenne. Mais là, c'est resté sans suite. La communauté d'agglomération de Melun-Val-de-Seine, qui, elle, proposait de gonfler son musée de la gendarmerie. Le problème, c'était le financement. Il n'avait pas de plan de financement, de certitude. Et ensuite, il y a une proposition d'offre qui a été faite par M. Alexandre Michel, qui est un homme d'affaires, qui est propriétaire du musée de Genèvrières. Et ça a été fait, j'irai en catimini, avec la mairie de Lunéville et la mairie d'Amnéville, par le biais de la communauté de communes. Donc ce monsieur a mis 1,5 million sur la table.
Même prix que oui. Qu'avait acheté la...
Ah non. La ville d'Amnéville n'a pas acheté ce prix-là. Ils ont acheté, je ne sais pas exactement combien, mais à l'époque c'est beaucoup moins, mais il y a eu aussi des subventions de l'État. Ce qui fait que toute l'opération revenait en gros à 1,5 million d'euros actuels. Et le maire de d'Amnéville a vendu l'ensemble pour 1,5 million. C'est-à-dire que c'est une opération qui est quand même très, très intéressante.
C'est juteux pour lui, là, alors,
oui,
pour la ville d'Amnéville.
Tout à fait. Là, c'est le beurre, l'argent du beurre et un petit coup dans la fermière. Donc voilà. Donc actuellement, ça a été déménagé sans que nous, association, donc nous le sachions. C'est dommage parce que c'était un geste qui aurait été apprécié et élégant. Mais maintenant, les motos ne sont plus à Amnéville. Elles sont dans la région de Genèvrières, paraît-il. On n'en sait pas beaucoup plus.
Genèvrières, c'est où ?
C'est entre Lunéville et Baccarat. C'est pratiquement au milieu. Ce monsieur-là est originaire de Flins. C'est un petit village qui est à côté de Genèvrières. Et récemment, il a acquis un ancien séminaire où il souhaiterait faire ce qu'il appelle un centre d'innovation et de vie. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais
rien. Ce serait là que seraient exposées les motos.
Et ce serait là que par la suite, les motos seraient exposées. Actuellement, on ne sait pas où elles sont. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Ce qui serait intéressant, effectivement, c'est que ça redevienne visible par le public. Mais a priori, ça va dans un but.
Normalement, oui.
Je ne pense pas qu'il y ait eu un inventaire qui ait été fait. Donc, on souhaite que la collection soit complète. Mais ça, personne ne peut l'affirmer. Seul Jean-Baptiste Chapleur actuellement dispose
c'est le petit-fils.
Le petit-fils, oui. Qui est président aussi de l'association, oui. Dispose, lui, de tous les documents officiels avec les photos et les descriptifs de tout ce qui a été vendu à l'époque à la ville d'Amnéville. Donc maintenant, suivre.
Je vais revenir un petit peu sur l'histoire. Hein. C'est les petits-fils qui ont vendu la collection donc, à la ville d'Amnéville.
Monsieur Chapleur, à la fin de sa vie, il y avait trois enfants, donc deux filles et un garçon. Le garçon travaillait avec lui. Hein, il était concessionnaire motobécane. Et bon, au fil du temps, la collection s'est étoffée. Bon, il est arrivé à un moment donné où ce monsieur voulait se défaire de cette collection parce que les enfants voulaient de l'argent. Pas le fils, lui, il souhaitait garder les motos. Oui. Mais bon, ça, c'est une histoire de famille. Je veux dire, je ne veux pas trop m'emballer là-dessus. Ce qui fait que tout a été vendu, ça a été partagé entre les enfants. Et à ce moment-là, c'est la commune d'Amnéville qui s'est proposée pour acheter. Voilà. Sauf que une fois que la collection est arrivée là-bas, le maire est décédé. C'est une autre personne, Monsieur Meunier, qui a pris en charge.
Il a trouvé que c'était très cher.
Ben non.
Parce qu'ils ont construit un bâtiment spécialement pour la collection.
Avec les subventions, on a construit effectivement un bâtiment pour la collection.
Mais après, il faut le chauffer.
Et c'est mais c'était très bien. C'était très bien. Sauf que dès l'instant où on ne veut plus mettre de l'argent et qu'on trouve qu'il y a de l'argent à mettre autre part, eh bien, notamment dans une piste de ski avec des canons à neige.
c'est pas pareil.
C'est pas pareil. Eh bien, effectivement, il faut bien trouver une solution. Alors, la solution, elle est un peu vicieuse, c'est d'enlever tout ce qui est poteau indicateur.
Ah et, oui, et donc et c'est oui, pour ça que en fait, justement, on se posait la question, mais on peut pas le trouver ce musée quand on va à Neuville. Il y avait pas de panneau, il y avait, il y avait pas de pub qui était faite pour.
Alors, tout à fait, parce qu'il y a quelques années, je me souviens plus quand, on était tout un groupe de motards, on était partis dans les Vosges, et le but du jeu, c'était durant le voyage aller d'aller me visiter ce musée d'Amnéville. Et à un moment donné, j'avais pris les directions, et j'ai tellement tripatouillé qu'on a fini par abandonner parce que c'était, je sais pas. Introuvable, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais c'était bien galère.
Donc c'est facile de dire, finalement, vous voyez, ça ne ramène pas d'argent. Et puis,
dès l'instant où plus personne n'y va, ça devient déficitaire. On dit, messieurs, dames, on doit fermer et voilà.
Et là, stop, Gilles, parce que là, le maire se dit, maintenant, on va revendre les machines à des collectionneurs privés.
À un collectionneur privé.
Non, mais à l'époque, la pétition soit lancée.
Oui. Non, mais c'est bien un collectionneur privé qui était dessus. C'est.
Et là-dessus, il y a une association, des associations qui se sont
tout à fait.
Créées pour défendre cette fameuse collection, pour éviter qu'elle parte à l'étranger, qu'elle soit démantibilisée.
Alors, si j'ai bien compris, Gilles, tu me contredis, c'était d'une part pour éviter qu'elle parte à l'étranger, comme le dit Jean-Michel, mais peut-être pour éviter aussi qu'elle soit dilapidée et qu'elle reste la plus compacte possible dans son ensemble.
Et qu'elle reste patrimoine français.
Oui. Alors, elle était classée trésor national, elle a été déclassée pour être rentrée dans le domaine privé et être vendue. Elle était vendue donc à une personne qui voulait tout à fait faire ce qu'il voulait avec. Notamment, par exemple, on pouvait par exemple vendre toutes les machines d'avant 1914, ce qui représentait beaucoup d'argent. Et ensuite, avec cet argent-là, on pouvait garder l'autre collection, c'est-à-dire les cycles et les motos plus récentes. Quand je dis plus récentes, c'est quand même des grosses et belles machines. Et ça, on avait des pistes là-dessus. Donc, notre action qui a été modeste, c'est-à-dire d'aller à Lunéville par la route avec des machines des années
30. Tu t'es mis en caleçon sur la Grande Place de Lille. Tu t'es déshabillé sur la Grande Place de Lille, Gilles.
J'étais pas tout seul. Je peux dénoncer mes deux camarades aussi.
J'ai vu la vidéo.
Oui, c'était pas glorieux, mais c'était frais quand même.
Il fallait marquer le coup.
Voilà.
Il fallait qu'on parle du musée.
Eh bien oui, mais il n'y a que vous les gars qui en avez parlé.
Voilà.
Parce qu'on n'en a pas parlé autre part. Et nous, le but, c'était pas de nous montrer en caleçon long à Lille.
Non.
C'était d'attirer les médias et que les gens réagissent. Eh bien, on n'en a pas eu beaucoup.
Ouais. Il aurait peut-être fallu te mettre sans caleçon.
Non, faut pas rêver.
Alors l'action, il y avait sur Internet, on pouvait signer des pétitions. On a fait signer pas mal de Descartes au salon de Pécancourt cette année aussi.
Tout à fait. Alors la pétition, elle est toujours en ligne, mais elle est bloquée depuis pas mal de temps, parce qu'on ne sait pas pourquoi. On essaye encore d'en parler autour de nous, mais les gens ne signent plus. Donc on est bloqué à 4500.
Est-ce que c'est encore nécessaire de se mobiliser? Ou alors franchement,
je pense que oui, parce que ce qu'il faudrait... L'idéal maintenant, c'est que cette collection, comme je le disais tout à l'heure, redevienne visible du public. Ça va l'être, mais quand, on n'en sait rien. Et ce qui serait bien, c'est de la faire classer monument historique, au même titre que le musée Schlumpf. Musée Schlumpf, en comparaison, a 98 marques de voitures et de véhicules de 1898 à 1914. Ce sont des voitures, des camions, des choses comme ça. Tandis que là, au musée Chapleur, il y avait 57 machines. 57 deux roues et trois roues, d'avant 1914, qui étaient roulantes et dans leur état d'origine. Donc il ne faut pas perdre de vue que, en comparaison, parce que des musées de moto, il y en a très très beaux, il y en a de nombreux, mais celui-là est vraiment un caractère exceptionnel. Voilà, donc le but maintenant...
Donc il faut continuer à signer cette pétition sur Internet.
Ah oui, tout à fait, oui.
Et puis je pense aussi, ne serait-ce que pour qu'il y ait un inventaire et pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que tout est encore là? Est-ce que tout est encore là dans l'état? Parce qu'après, ces machines-là... Enfin, moi, l'un des slogans des vieux clous, c'est qu'il faut qu'elles tournent et qu'elles roulent plus ou moins régulièrement.
Très bien. Bon, écoute, Gilles, on continue à suivre l'affaire.
On vous tient au courant.
Eh bien, on termine, on revient un petit peu sur avec Lionel sur l'Écosse. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais oublié de dire quelque chose très important.
C'est Gilles un peu qui m'a mis sur la voie, sur la route, c'est le cas de le dire, puisque quand il y est allé il y a une bonne dizaine d'années, il disait effectivement on a eu des routes extrêmement pentues, et c'est vrai que ça, c'est un des éléments qui m'a surpris, y compris au nord de l'Angleterre ou en Écosse. C'est pour
Bon, j'ai l'habitude de traîner aussi dans les montagnes et notamment dans les Alpes françaises, mais je vois rarement des routes avec des dénivelés aussi importants, de je sais pas, 10, 15, 20%, j'en sais rien, peut-être plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Moi, je parle en degrés, hein. On a eu des 25, 30 degrés et j'étais en CID XS Yamaha, on se sent, et on est arrivé presque en haut, en première, et c'était limite, limite, quoi. On commençait à se demander ce qui allait arriver.
Ah oui, c'est vrai à ce point-là?
Ah oui, non, il y a des endroits, c'est très très pentu, effectivement. Ah ouais, tout à fait. Je confirme.
Très bien. Lionel, tu es aussi le président du motoclub de Loing-Aymery.
Oui.
Comment se porte le motoclub?
Très bien, ma foi. Ouais. Oui.
Combien d'adhérents actuellement?
On est toujours entre 40 et 50. Et on a fait notre rallye le mi-septembre, qui s'est très très bien passé.
Je rappelle que vous faites un salon.
Un rallye touristique.
Mais au début d'année, au mois d'avril.
Alors, début mars.
Début mars.
Un salon, c'est un peu prétentieux. On fait une journée moto.
Une journée moto.
Non, voilà. On va le refaire normalement le 4 mars.
Donc c'est prévu pour 2018?
Et puis. Tu dis ?
C'est prévu pour 2018 ?
Normalement, le 4 mars, oui, on aura l'occasion d'en reparler. J'aimerais bien qu'il ait été soutenu par la radio aussi. J'aimerais bien avoir Luc Cotterel, parce que ça fait 2-3 années que je le contacte et qu'il peut pas, pour des raisons tout à fait louables. Il faut que je le contacte pour savoir si cette année, l'année prochaine, il pourrait être là. La confrérie des vieux clous, j'avais beaucoup apprécié la présence
Jean-Paul
et Thomas. Ouais. Et puis, j'avais d'ailleurs fait la balade. Demander hors antenne, et ben du coup tu peux le dire, Gilles, les dates de la prochaine balade des...
Eh oui, c'est tombé, mais nous ça fait 41 ans que ça dure, ça aura
41 ans l'année prochaine.
Donc c'est toujours l'avant-dernier week-end du mois de mai.
Très bien.
Voilà.
Ça c'est pour les dates déjà 2018.
Ah voilà. Ouais, puis c'est une super balade. Je fais la balade avec ma vieille mille pendant 3 jours et avec
les
roadbooks.
Ah oui, ça c'est la condition sine qua non, c'est qu'il faut avoir une machine qui va bien avec le.
Même un peu. Déjà la mille elle est de 76. Bon, m'ont dit ouais, 76 ça va le faire quoi. Mais et en plus ça fait une super balade. Et comme j'avais d'ailleurs dit quand tu étais venu Jean-Michel, les vieux clous, ils ont tous les vices.
Ah, il est beau, hein, il est bien, hein, Lionel. Voilà. Bon, Supercross, ça vous dit quelque chose? Supercross.
Ah, c'est plus à Pierre-Mauroy.
Non, c'est plus à Pierre-Mauroy. Gilles.
Ah bon? Oui, c'est très bien.
C'était à Paris, c'est venu à Lille, c'est reparti à Paris.
C'est indoor.
Oui, bien sûr, c'est indoor. Oui, c'est un Supercross, oui, c'est un show, hein, c'est l'acrobatie, c'est un très beau spectacle.
Moi, je suis resté à Cassel, mon bon monsieur.
Alors Jack Finlay.
Oui.
Michael Wood peut-être. Ah, c'est peut-être pas
Michael
génération.
Wood, mais actuellement plus proche, il y a Steve Perlinski et Bruno qui tournent.
Oui, bien sûr.
Ah bah oui,
sûr,
quand même.
Sûr, oui, quand même. Bien sûr. Mais enfin bon, c'est pas dans la même catégorie quand même.
C'est pas la même catégorie de prix non plus.
C'est pas le même prix non plus. Donc ce sera le 18 et 19 novembre prochain, mais la toute nouvelle salle parisienne qui s'appelle la U Arena, située à Nanterre, Paris La Défense, qui va accueillir donc le grand retour du Supercross à Paris. Voilà, et donc je vous conseille de rester à l'écoute de l'émission les dimanches suivants, parce que nous allons vous offrir des entrées donc pour cette édition 2017 du Supercross. Voilà, attention, parce que la première prix c'est 94€ et après ça va jusque 60. Alors la première catégorie c'est 94, 79 et 65€ suivant où vous placez. Hein. Et je rappelle que c'est une salle chauffée pour ceux qui auraient peur d'avoir froid au mois de novembre. Voilà, l'émission se termine. Laurent me fait signe. Gilles, on regarde, on continue à suivre cette affaire Chapeleur, parce que moi c'est pas tout à fait fini quand même.
Non.
Hein, voilà.
Un mot si j'ai le temps. Allez faire un petit tour au trial sur un terril à côté de Mons, mi-novembre, ça doit être le 11 et le 12, et surtout le dimanche après-midi, il y a une petite montée impossible avec des vieilles bécanes, c'est sympa comme tout.
Très bien.
En Belgique.
Voilà,
en Belgique.
À côté de Mons en Belgique.
Merci Nikio pour les infos au Grand Prix Japon. Hein. C'est dommage que je n'ai pas vu. Merci Yannis d'être venu poser des questions à notre ami écossais, presque. Merci Laurent, dimanche prochain.
Au revoir,
bon dimanche.
À la semaine prochaine.